J'ai pris un peu de retard parce que comme je me suis acheté la Bible, c'est toujours la Bible Second, mais avec les commentaires de MacArthur, de John MacArthur, alors évidemment je suis tenté d'aller chercher dans toutes les références, voir un peu ce qu'il pense, sa façon. Ça m'a l'air d'être une très bonne Bible. Bon, il y a des choses, il ne croit pas du tout dans les dons de l'esprit, ça. Bon, ben, enfin, bon. Nous, on sait où on en est de ce côté-là. Donc voilà, je vous recommande d'acheter quand même cette Bible, qui est une Bible d'études formidable. Mais bon, ne vous fiez pas à tout ce qu'il dit, ce n'est qu'un être humain. Alors voilà, comparé avec ceux qui sont un peu plus au courant des choses de l'esprit, au sujet de la puissance, de la manifestation des dons. Voilà, ça va ? Je vais vous lire dans 2 Corinthiens 6, 16 ce soir. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Par la Bible, nous apprenons que nous sommes un esprit. Nous apprenons que cet esprit a été enfermé dans une enveloppe charnelle que nous appelons notre corps. Et ce tout, c'est ce que la Bible appelle l'âme, ou être vivant. Notre corps est devenu, depuis que nous sommes convertis, le temple du Saint-Esprit. Parce que nous avons été créés, Adam et Ève ont été créés êtres vivants, mais leur esprit était réellement vivant. C'était l'esprit de Dieu, mais par l'esprit de Dieu, en communion avec Dieu. Et puis il y a eu le péché, ce qui fait que quelque chose est mort, la vie s'est retirée, il n'y avait plus que l'existence animale. Et maintenant que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous avons reçu Jésus-Christ, depuis que nous avons cru dans ce qu'il a fait, et cru dans ses promesses, et que depuis que nous nous sommes mis à nous discipliner à faire ce qu'il veut, alors nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, comme je vous le disais l'autre jour, l'Esprit de Jésus s'est glissé en nous. Avant notre conversion, notre esprit était mort. C'est-à-dire, il était en relation avec la mort, avec les ténèbres. Et par notre conscience, nous avions une conscience, eh bien, nous avions accès aux lois de Dieu sans savoir quelles étaient les lois de Dieu. Les gens de ce monde appellent ça les lois universelles. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer. Voilà, hein. Mais depuis notre conversion, l'Esprit de Dieu se charge de nous conduire et la parole écrite, la Sainte Bible, c'est notre guide parfait. Nous savons qu'on agit bien quand l'inspiration qui nous vient d'agir d'une manière ou d'une autre, elle trouve sa base dans les Saintes Écritures. On sait qu'on agit bien si on trouve la base de l'intention du pourquoi, comment on fait les choses, si on trouve cela dans la Bible. C'est bon, voilà. Nous sommes toujours dans ce corps que Dieu a fait et nous avons deux possibilités d'agir, selon l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ou selon les pulsions de notre corps, selon, vous savez que nous sommes un paquet d'électricité, nous avons des neurones, et tout ça, il y a des courants électriques qui passent entre, ça crée des choses, des émotions, en fait, on est de la chimie, notre corps, tout ça. Et notre corps, c'est une merveille. Il nous faut savoir que, d'une manière générale, notre être intérieur, c'est-à-dire notre esprit, qui est maintenant en communion avec Dieu, il est en contact avec le monde extérieur, cet être intérieur est en contact avec le monde extérieur par nos sens. Toujours, bien que nous soyons nés de nouveau. Nous avons l'ouïe, le goût, l'odorat, la vue, le toucher, moi je dis aussi le mental. Par exemple, lorsque je vois un objet, eh bien, s'il me semble agréable, il y a quelque chose qui s'est passé pour que ça me semble agréable. Comment c'est arrivé? Bien, premièrement, mes yeux l'ont vu. Là, ils voient l'objet. Et immédiatement, accompagnant ma conscience visuelle, apparaît ma conscience mentale. C'est-à-dire, je fais des regroupements avec des choses que je sais, que j'ai apprises, que j'ai touchées, que j'ai vues, que j'ai expérimentées. Et ça me donne une sensation agréable ou désagréable. Et il en va de même pour les sons, par exemple, après que mes sens auditifs ont perçu un son. Ce soir, je serai la plus... Eh bien, il y a ma conscience mentale qui me donne une sensation agréable ou désagréable. Écoutez, ben c'est désagréable. Maintenant, quand on a une sensation agréable, ça produit en nous un désir-attachement. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça crée un désir envers l'objet, ou alors, un attachement envers cet objet. La sensation plaisante, elle est la condition de l'apparition du désir et de l'attachement. Parce qu'on a une sensation plaisante, mais on l'a parce qu'on a vu, on l'a parce qu'on a touché, on l'a parce qu'on a entendu, on l'a parce que c'est à cause de nos sens. Alors, une fois qu'est apparu le désir ou l'attachement, le désir ou l'attachement embarque notre être intérieur avec lui, c'est-à-dire avec ce désir, cet attachement. Notre esprit va se laisser embarquer lorsque le désir ou l'attachement est apparu. Et notre esprit devient complètement soumis à la domination de ce désir ou de cet attachement. Ça peut être un facteur, ça peut être bon, ça peut être perturbateur. Et ça va nous conduire à agir d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Par exemple, si votre esprit n'est pas soumis à l'esprit paisible, doux et humble de Jésus-Christ, s'il est soumis à un désir ou un attachement perturbateur, eh bien, vous allez avoir un comportement qui est erroné, qui est négatif. Quelque chose qui est, que la Bible appelle péché. Péché, ça veut dire qu'il manque le but. Ça va vous nuire à vous, ça va nuire à votre entourage. Tout ça parce que votre esprit n'est pas soumis à l'esprit paisible, doux et humble de Jésus. Alors, vos sens, ils ne peuvent pas faire autrement que de voir tout le temps, d'entendre tout le temps, toucher tout le temps, sentir tout le temps. Mais votre esprit, est-ce que vous exercez votre esprit à être en communion avec l'Esprit de Dieu qui est doux, qui est humble, qui est paisible? Il faut qu'il soit autant en contact avec le domaine de l'Esprit de Dieu que votre corps l'est avec le reste de ce qui est dans ce monde. Sinon, vous avez un déséquilibre terrible. Et nos actions erronées, nos actions négatives, ce qu'on appelle péché, Ça va s'accumuler et ça va laisser en nous une empreinte. Au début, c'est pas grand-chose. Mais comme la chose se répète, ça devient des sillons, ça devient le Grand Canyon. Cette empreinte, elle sera en vous une potentialité qui sera à l'origine de toutes les difficultés, les différentes souffrances que vous allez pouvoir rencontrer dans le futur. Parce qu'il arrivera toujours un moment, mais toujours, où votre empreinte qui est déposée en vous va rencontrer des causes et des circonstances extérieures qui vont faire que, boum, ça va ressortir de nouveau. Et vous allez réagir, et en suivant cette empreinte, parce que, vous savez, s'il y a un endroit plat, et puis que vous mettez de l'eau, et que tout à coup il y a une empreinte, où est-ce qu'elle va à l'eau? Dans l'empreinte. Et bien, c'est la même chose. Ça va suivre l'empreinte. Vous occasionnez toutes sortes d'inépuisables souffrances physiques, mentales et toutes ces sortes de choses. Nous sommes un corps et nous sommes un esprit. Et dans l'état actuel des choses, on ne peut pas, ça nous est impossible de ne pas faire l'expérience de la souffrance. On rencontre tous des difficultés. Mais si on ne réfléchit jamais aux causes profondes de nos souffrances, et si on ne réfléchit jamais à la manière dont elles engendrent leurs résultats, si on pense que voilà, c'est comme ça, puis voilà, puis ça arrive, puis des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, eh bien, on va rester toute notre vie à gémir, toute notre vie à nous plaindre, parce qu'on ne tirera aucune leçon de rien du tout, on agira comme des abrutis. Alors on a tous accumulé des empreintes en nous, et en vieillissant, moi je me disais, en vieillissant ça va aller mieux. Ben non, c'est pas vrai, on ne devient pas sage parce qu'on devient vieux. Ça c'est une légende. Hein. Et j'ai 57 ans, je ne suis pas plus sage qu'avant. La sagesse, c'est de tourner nos regards vers le grand effaceur d'empreintes. Voilà ce que c'est la sagesse. Dieu a envoyé son propre Fils afin de nous purifier de toutes choses, de nous purifier de toutes ces empreintes. Pour ce qui est de notre passé, de tout ce temps durant lequel vous avez accumulé toutes ces empreintes qui ensuite ont conditionné votre comportement, il y a un remède. Ce remède, on le sait maintenant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu l'apporter en lui-même. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, c'est-à-dire m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a deux lois. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Si je suis en Jésus-Christ, je suis au bénéfice de cette loi. Ce n'est pas une loi, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est une loi comme la loi de la gravité, comme la loi de la pesanteur. C'est une évidence, c'est quelque chose qui fonctionne. Quand on est en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. C'est-à-dire que ni Dieu ne vous condamne, ni personne n'a le pouvoir de vous condamner, ni vous-même, vous n'avez à vous condamner. Si vous vous condamnez, c'est que vous vous estimez plus fort que Dieu. Eh bien, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a rendu libre de quoi ? De la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est de descendre, de couler toujours, et puis de finir en enfer, c'est-à-dire l'endroit le plus bas. Dieu a condamné le péché dans la chair, nous dit Paul. Il a condamné le péché dans la chair, c'est-à-dire toutes ces empreintes, toutes ces choses négatives, il les a condamnées dans un corps qui est comme le nôtre, qui était comme le nôtre, afin que la loi de la justice, rappelez-vous, ce n'est pas la loi de faire ci ou de faire ça, c'est une loi comme la loi de la pesanteur, comme c'est une loi, c'est une évidence, quelque chose qui marche comme ça, et puis ce n'est pas autrement, afin que la loi de la justice soit accomplie en nous. Qu'est-ce que c'est cette loi de la justice ? C'est que Jésus est juste parfaitement, il n'a jamais péché, il n'y a jamais eu une empreinte de péché en lui, et ça, cette qualité de vie, cette extraordinaire vie pure, il l'a mis en nous. C'est ça son esprit en nous. Afin que la loi de la justice soit accomplie en nous. C'est-à-dire que maintenant, cette justice va s'accomplir, va se manifester en nous. En nous qui ? Qui en nous ? En tout le monde ? Non. En nous qui marchons, non selon le corps, mais selon l'esprit. Non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Réellement, Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Réellement, il a fait plus que de les pardonner. Il les a ôtés. Mais maintenant, il vit en vous. Il a mis en vous cette loi de la justice. Mais par manque de connaissance, mon peuple périt. Si vous ne savez pas que c'est en vous, vous ne pouvez pas. Quand on ne sait pas quelque chose, c'est difficile de le mettre en pratique ou de l'exercer. Jésus, sur la croix, il a fait quelque chose qui est un acte officiel, légal, aux yeux de Dieu. Il a cloué la loi qui nous condamnait, il l'a annulée afin que nous puissions être au bénéfice de sa grâce. Il nous était impossible, avant cet acte officiel, de nous affectionner aux choses de l'esprit. On désirait être bien, on désirait marcher correctement, on désirait, mais on était sans force. Parce que cette loi du péché et de la mort, comme la loi de la pesanteur ou la loi de la gravité, nous a tirés vers le bas. C'est une loi. La loi, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi du péché. Notre esprit en nous, Jésus dit, il était ardent, mais notre chair, elle était faible. Est-ce que ça a changé ? Non. Notre esprit est toujours ardent. Notre chair est faible, mais maintenant, nous ne sommes plus en force. Parce que nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort. On n'est pas libérés de faire des péchés, vous pouvez toujours faire des péchés, mais vous êtes libérés de la loi du péché et de la mort. Vous voyez la nuance ? Notre esprit en nous était ardent, Il voulait faire le bien, mais notre chair était faible, affaiblie de plus en plus par de plus en plus grandes empreintes qui s'accumulaient. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, 18. Les choses, c'est-à-dire ces empreintes anciennes, sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Paul dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. C'est lui qui nous a réconciliés. Toutes ces empreintes, toutes ces choses, toutes ces traces qui faisaient que toujours on redégringolait à chaque fois qu'il y avait une circonstance, hop, de nouveau on redégringolait, chasse l'île naturelle, il revient au galop. Oui, ça c'est la chair, mais maintenant nous ne sommes plus en force. Parce que nous sommes pardonnés, nous pouvons nous relever et apprendre et nous corriger et faire des progrès. Au verset 14, Paul écrit, un seul est mort à la place de tous, donc tous sont morts. Voilà, c'est comme ça. Je ne vous demande pas de me l'expliquer, ne me demandez pas de l'expliquer, c'est écrit et ça me suffit. Un seul est mort à la place de tous, c'est-à-dire Jésus est mort à la place de nous tous, donc nous sommes tous morts. Et la foi, c'est croire ça. Avez-vous été inclus dans la mort de Jésus? C'est que la foi qui peut vous le faire croire. C'est que la foi qui peut vous mettre à l'aise à cet effet, à cet égard. Vous savez effectivement que Jésus vous a inclus dans sa mort quand vous vous mettez à croire, c'est-à-dire quand vous avez foi que vous êtes mort. Est-ce que je vous demande de juger sur l'apparence? Non. Simplement de croire que vous êtes mort. Tout prouve que non. Là, l'air, hein, je suis bien là, hein. Eh bien, je dois croire que je suis mort. Mort sur la croix. Et vous devez croire que vous avez été enseveli quand Jésus a été enseveli. Et vous devez croire que vous êtes ressuscité quand il est ressuscité. Et vous devez croire que si vous vivez aujourd'hui, c'est parce qu'il vit en vous. Et vous devez croire qu'il ne vivrait pas en vous si vous aimiez les ténèbres et le mal. Qui ici peut dire « J'aime les ténèbres et le mal » si vous pensez ça au plus profond de vous, alors oui, d'accord, vous pouvez avoir un doute au sujet de l'Esprit de Dieu en vous. Notre vieille vie, centrée sur nous-mêmes, c'est ça quand je parle des ténèbres et du mal, cette vieille vie centrée sur soi-même, avec ses désirs, ses attachements, tout ça, ça a pris fin, c'est mort. Et notre désir suprême est désormais atteignable, c'est de vivre une vie sainte parce qu'il nous en donne la force. Et c'est aussi de nous attacher à Jésus et de lui ressembler de plus en plus, marchant par l'esprit. Marchant, ça veut dire faisant un progrès dans un but précis. Ça ne veut pas dire être parfait tout de suite. Croyez que Jésus vous a purifié et défendez votre intégrité en face des mensonges de l'ennemi et même en face des mensonges de votre raisonnement personnel. Renversez les forteresses de tous les raisonnements. Oui, mais enfin, à mon avis, ton avis, mais alors là. La mort de Jésus, ce n'est pas que la mort de Jésus, c'est ma mort, c'est ta mort. Et la résurrection de Jésus, ce n'est pas que la résurrection de Jésus, c'est ta résurrection, c'est ma résurrection. Je suis né de nouveau, ça signifie je suis ressuscité. Et mes désirs sont nouveaux. Ils me portent vers la pureté, vers Jésus, vers sa gentillesse. Ils me portent là-bas. L'esprit qui est en moi porte mes pas vers cela. C'est-à-dire, je me dirige vers cela. Est-ce que j'ai atteint encore? Non, je n'atteins pas la perfection. Je n'ai pas atteint la perfection, mais courant vers le but, oubliant ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Quand vous dites ça, quand vous croyez ça avec votre cœur et que vous dites ça avec votre bouche, vous créez une empreinte en vous. Une autre empreinte. Une empreinte bien différente des autres empreintes. Vous êtes une nouvelle créature, ça signifie que vous avez été purifié et que vous avez à vous discipliner pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie où tout est basé sur l'amour et la foi. Personne ne pouvait faire ça avant. On en avait le désir, mais on n'en avait pas la force. Maintenant, on en a la force parce qu'il a tué le péché et la mort. Il a détruit, il a cloué ça à la croix. Et le principal obstacle que les gens irrégénérés ont, c'est qu'ils jugent selon la chair. Alors on a dit marcher selon la chair. Maintenant, marcher, il y a beaucoup de choses dans marcher. Il y a beaucoup de choses dans ce fait d'avancer dans les progrès. Et le principal obstacle à une bonne marche en avant selon l'esprit, c'est de juger quant à la chair. Je vais vous lire 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans la chair, vous avez bien vu la phrase, c'est pas si nous marchons selon la chair, si nous marchons dans la chair. C'est-à-dire que nous sommes dedans. Paul était un envoyé de Dieu, mais il n'en demeurait pas moins un homme. Son esprit était dans son corps, il était humain, discipliné, il marchait dans la chair. Ça signifie, mon esprit se déplace quand mon corps se déplace. Mon esprit parle au travers de mon corps, mon esprit juge les autres et moi-même, depuis l'intérieur de mon corps. Mais ce n'est plus mon corps qui va là où il veut, ce n'est plus mon corps qui parle comme il veut, ce n'est plus mon corps qui juge les autres comme il veut. La chair, elle a ses désirs, elle voudrait bien, mais elle peut point, elle peut point. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit qui vit en moi, qui est mon vrai moi. Aujourd'hui, je juge selon l'esprit, la Bible dit. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas juger. Quelqu'un qui est né de nouveau, il juge de tout. Parce que c'est par l'esprit qui est en lui. C'est pas que tout d'un coup il est devenu plus intelligent. Aujourd'hui, je juge selon l'esprit. Et en jugeant, je gracie. Parce que gracier, c'est la volonté de l'esprit. Autrefois, je me jugeais selon la chair. Et alors, je culpabilisais. Et je culpabilisais. Selon ma chair. Maintenant, mon esprit, qui est en communion avec le Saint-Esprit, a pris les commandes, et le résultat, c'est la grâce. Le résultat, c'est la grâce. La fin de tout jugement, c'est la grâce. Je me crois gracié, et je crois les autres aussi graciés. C'est pourquoi je pardonne. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de pardonner. Quand il a dit, tes péchés te sont pardonnés à l'homme paralytique, les pharisiens, les religieux ont dit, mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Vous voyez ? Ils savaient bien ce que ça veut dire. On peut dire, oui, je te pardonne, mais il n'y a que Dieu qui accorde un pardon plein, parfait, complet. Pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. J'ai le pouvoir de le faire. Dieu m'a donné le pouvoir de le faire. Alors, je pardonne, je vous ai donné le pouvoir de le faire, alors je le fais. Quand vous pratiquez ça, vous croyez que ça fait quoi en vous? Ça crée des nouvelles empreintes. Tout ce que vous faites en son nom, je vous ai prêché ça là, il y a quelque temps en arrière, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on dit, est-ce que je peux le faire au nom de Jésus? Non, bon d'accord, alors il ne faut pas le faire. Vous voyez, c'est simple. Tout ce que vous faites en son nom crée une empreinte en vous. Alors Paul, il ne menait pas un combat spirituel pour le salut des âmes ou pour l'éducation des chrétiens en ayant recours à l'ingéniosité humaine, à la sagesse de ce monde et à toutes sortes de choses philosophiques, genre truc de M. Jourdain. Parce que de telles armes, elles sont impuissantes pour libérer les pécheurs. Parce que ces armes-là, elles sont impuissantes pour conduire un enfant de Dieu jusqu'à la maturité. Ce sont des armes spirituelles qu'il nous faut employer. Et c'est ainsi que nous avons nous comporter. Si Paul le faisait, nous pouvons le faire. Ah, tu crois, Michel? Mais bien sûr, puisque même ce que Jésus faisait, nous pouvons le faire. Il a dit, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Il faut déjà commencer par croire qu'on peut le faire. Paul disait, vous regardez à l'apparence, 2 Corinthiens 17. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est en Christ, disait-il, qu'il se dise bien cela. C'est que comme il est en Christ, nous aussi nous sommes en Christ. Alors, c'est ça que je veux dire en fait dans cette réunion ce soir. C'est que quand le monde dit on juge les autres d'après soi-même, ben c'est tout à fait vrai. Si vous jugez que vous êtes en Christ, ben dites-vous bien que les autres sont aussi en Christ. Vous voyez, Paul ne jugeait pas selon l'apparence. Il dit vous jugez selon l'apparence. Il ne jugeait pas selon l'apparence. C'est-à-dire qu'il ne jugeait pas selon l'apparente nullité du frère ou de la sœur. Il ne jugeait pas selon l'apparente réussite du frère ou de la sœur. Non. Il regardait spirituellement pour aimer chacun. Regarder selon la chair, c'est-à-dire selon l'apparence, ça vous place dans l'erreur, ça vous place dans le péché, inévitablement. Alors pour marcher selon l'esprit, eh bien, il faut apprendre. Ça s'apprend. Qui dit apprentissage, dit maladresse, erreur, progrès, et finalement maîtrise. Mais ce n'est pas la maîtrise tout de suite. Ce n'est pas la maîtrise tout de suite. Voilà pourquoi vous êtes l'objet de jugement, mais vous êtes aussi l'objet de la grâce des frères et sœurs. Voilà pourquoi vous jugez, mais l'aboutissement de ce tribunal qui est dans votre tête et dans votre cœur doit aboutir, et vous le savez à l'avance, à la grâce. Et puis vous avez des progrès à faire, parce qu'il y a le plaidoyer, il y a l'accusation, il y a tout ça, ça se passe dans votre tête et c'est terrible. Mais il faut absolument écourter ces audiences intérieures et gracier, faire la volonté de Dieu, c'est ça, c'est gracier. Comme il nous a graciés, graciez-vous, graciez les autres. Mais maintenant, ne devancez pas les étapes, ne vous découragez pas, vous n'allez pas être un juge parfait. Comme ça, parce que vous avez entendu une prédication de plus sur ce sujet. Moi-même, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. On a tous des choses à apprendre, tous. On n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Mais ne nous lassons pas, ne nous décourageons pas. Vous n'êtes pas encore ce qu'il veut que vous soyez, mais il est au courant, il le sait, et il ne vous en veut pas. Jésus ne vous en veut pas. Alors, ne vous en voulez pas non plus. Et puis, dites gentiment aux autres, écoute, je suis en train de faire des progrès, je fais tout mon cœur, j'essaye, comprends-le, pardon, excuse, voilà, je vais tâcher de faire mieux, et puis, allez de l'avant. Seulement, il faut que vous décidiez de progresser. Il ne faut pas vous contenter de la position où vous êtes actuellement. Vous savez, je vous ai dit l'autre jour de relire le pourquoi nous vivons en communauté dans le livre Oracle. Pourquoi ? Parce que ça fait maintenant, ça fera 30 ans l'année prochaine qu'on vit en communauté. Bon, moi ça fait 30 ans, ma femme ça fait 30 ans, Yéna ça fait 27, 28, non, ça fait à peu près tout. Il y en a beaucoup qui sont 30 ans maintenant, puisque je vis en communauté avec vous déjà il y a 30 ans. Donc vous... Ce que je veux dire par là, c'est que ça crée des habitudes, ça crée des empreintes. Et il ne faudrait pas que ces habitudes-là soient des habitudes de la chair, c'est-à-dire, voilà, laisser aller dans notre comportement. Il faut que nous nous ressaisissions dans le Saint-Esprit, dans la prière, et que nous fassions des progrès évidents. Marcher selon l'Esprit. Jésus disait, en marche les pauvres, en marche les affligés, en marche. Eh bien, si vous êtes affligé, en marche. Amen. Si vous êtes triste, si quelque chose ne va pas, en marche. Si vous êtes fatigué parce que vous voyez les autres qui sont des nuls, en marche, graciez-les et hop, les rois gracient. Et il y a un esprit de roi. C'est vous avez le pouvoir de le faire. Et si vous êtes la personne qui est condamnée, eh bien, demandez la grâce. Priez Dieu qu'il inspire ceux qui vous condamnent. Et puis, faites des progrès afin de pouvoir être jugé différemment aussi, parce que peut-être ont-ils raison de vous juger sévèrement. C'est pas être méchant, être sévère. Jésus est sévère, mais jamais il est méchant. Il est sévère. Il attend quand même beaucoup de nous. Et c'est vrai qu'il est patient. Il ne faut pas charrier non plus. Il châtie ceux qu'il aime. Donc, acceptez aussi que l'apôtre Paul le dit dans le même verset. Là, il dit « Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est-à-dire avant d'emmener la pensée les autres à l'obéissance de Christ, il faut d'abord amener la sienne, puis ensuite on peut commencer à amener les autres. Et puis ensuite, au verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Vous voyez ? Donc ne pensez pas que c'est méchant, que c'est injuste, mais il faut pour votre progrès de temps en temps qu'on pique, afin qu'il y ait progrès, parce qu'on s'aperçoit que vous dormez trop dans l'habitude communautaire. Alors, changez d'état d'esprit. Là, je vais partir, c'est mon dernier vendredi avant 3 semaines. Que dans 3 semaines, quand je reviens, que vous ayez vous-même personnellement prié. Et si vous êtes en famille, priez en famille, demandez un renouvellement dans le Saint-Esprit. Si vous êtes un célibataire, trouvez quelqu'un aussi et faites des moments de prière où vous recherchez cette puissance du Saint-Esprit pour vous réanimer afin de pouvoir vivre une vie un peu différente. Je pense que notre communauté a tendance à s'auto-satisfaire dans une espèce de ronron, voilà, un jour, et puis un jour, et puis encore un jour. Non! Nous avons été sauvés pour un but précis et nous n'avons pas le droit de nous reposer sur nos lauriers. C'est vrai que par rapport à beaucoup, c'est formidable ce que nous vivons, mais nous ne sommes pas encore arrivés au but que le Seigneur Jésus nous a fixé. Donc, réveillez-vous chacun d'entre vous et faites la volonté de Dieu qui est de gracier toujours. Gracier, comme il dit le frère qui interprète le frère Osborne. Ça me fait rire parce qu'il emploie souvent le mot grâce, mais alors il dit grâce. Il dit... Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Ça fait drôle, ces expressions. Mais c'est vrai, reposez-vous dans la grâce et accordez ce repos aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus veut nous garder dans ta paix, nous aider à être des porteurs de paix, des créateurs de paix. Tu as dit, heureux celui qui procure la paix. Je te prie, mon Dieu, que chacun d'entre nous puissions être de cette sorte de personne et que nous sachions bien où se trouvent les difficultés, mais que nous les regardions avec tes yeux et toujours avec une infinie compassion. Merci Seigneur de m'aider, d'aider chacun d'entre nous et d'aider aussi les gens qui écoutent ce message sur Internet. Dans le nom de Jésus. Amen.
Je voudrais vous partager quelque chose. Cette semaine à mon travail, j'ai appris d'une de mes collègues que son papa est atteint d'un cancer. Un cancer du poumon. Et elle vient d'apprendre il y a 8 jours que vraisemblablement il n'en a plus que pour 6 semaines à vivre. Alors donc, forcément ma collègue, son papa a 75 ans, elle ne voudrait pas qu'il parte. Bon, alors je vous résume, bon, elles ne sont pas forcément des gens très très croyants, c'est ce que j'ai cru comprendre. Elle sait un peu ce que je vis, je lui ai parlé un peu de ma foi, enfin brièvement. Et. Cette semaine, je me disais que bon, ben, c'est pas facile pour moi au travail de prier ou quoi que ce soit. Alors j'ai eu cette idée. Hier, vite fait avant qu'elle s'en aille, je lui ai parlé. Je lui ai dit que le vendredi, on faisait une réunion, qu'on se réunissait, qu'on parlait autour de la Bible et qu'on priait. Et c'est ce que je lui ai demandé à Michel. Je lui ai dit, on va prier pour ton papa, pour sa guérison, mais je voudrais que je te demande, est-ce que tu es d'accord ? Parce que la Bible dit que si on se met d'accord 2 ou 3 ensemble pour demander quelque chose en son nom, il le fait. Je lui dis, c'est pas magique. Hein. Je lui dis, Dieu répond à la foi. Alors elle m'a dit, mais bien sûr, je te le demande. Alors c'est ce que je voudrais demander à Michel. Je lui ai parlé un petit peu de Michel brièvement aussi en disant qu'il priait pour les gens, qu'il communiquait la foi, et notamment en Afrique, elle sait que... Donc, elle sait que je suis allée en Afrique, elle sait que dans la communauté il y en a qui vont en Afrique, et je lui ai dit il y a des tas de gens qui ont été guéris. Je dis, ça peut te paraître incroyable, mais ce sont des gens très ouverts, et je lui ai dit ils ont la foi. Ce que j'ai voulu beaucoup insister, c'est que c'était pas magique, quoi, parce que elle sait que ce soir on va prier pour son papa. Je me rappelle plus, j'ai demandé son prénom, mais je me souviens plus. Il s'appelle en fait Monsieur Luçon. Et donc, je lui ai dit, si tu peux lui en parler ce week-end, qu'on a fait cette prière pour lui. Alors, elle m'a dit qu'elle allait essayer de lui en parler. C'était pas toujours facile, elle n'était pas toujours seule avec lui, mais qu'elle allait lui en parler. Voilà.
On va prier tous ensemble, on se met debout, on prie pour ce monsieur Luçon. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, sachant que tu nous as graciés, tu nous as pardonnés, tu nous as accordé la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies, ta protection. Et Seigneur, il n'y a aucune accusation qui demeure contre nous. Maintenant, nous pouvons librement venir devant toi, sachant que tu as effacé toutes nos fautes et que nous pouvons nous présenter devant tes yeux comme des êtres purs, purifiés par le sang de Jésus. C'est pourquoi nous osons venir devant toi faire cette demande d'exaucer la prière que nous faisons maintenant. Monsieur Luçon, nous te demandons d'étendre ta main et de lui permettre de retrouver la santé. Tu vois la foi de sa fille qui a dit oui, je le demande. Eh bien, Jésus, veuille la bénir, veuille bénir cette famille et agir, faire quelque chose, donner une guérison à cet homme. Merci Jésus. Maintenant je m'adresse à cet esprit de maladie, à cet esprit de cancer, à cet esprit de mort qui tourne autour de cet homme. Au nom de Jésus, je commande à la mort de quitter cet endroit. Que cet homme puisse respirer correctement. Au nom de Jésus. Mort, tu le lâches. Au nom de Jésus, je fais sécher maintenant ces cellules cancéreuses et je commande maintenant que ces choses sèchent et meurent en lui et disparaissent par les voies naturelles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commande maintenant à ces esprits de maladie de quitter et sortir de cet homme. Au nom de Jésus, le Seigneur Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois loué Jésus pour ton action dans cet homme. Merci Jésus, que ta gloire éclate dans cette affaire. Amen.